L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Combien d'entre vous êtes bénis? Super, c'est bon. Amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Vous savez, quand on dit ça, on est en train de charger l'atmosphère avec la louange et la présence de Dieu, parce que Dieu dit qu'il habite la louange de son peuple. Amen. Êtes-vous le peuple de Dieu?
Oui.
Est-ce qu'on peut dire, je loue le Seigneur. De tout mon cœur?
De tout mon cœur.
Et là, on a une promesse. Il habite la louange de son peuple. Et on a chanté, mais des fois, on pense qu'il faut louer en chantant. Vous savez, on peut louer avec nos bouches. Et on peut dire gloire à Dieu. C'est vrai? On peut être dans notre auto tout seul et puis dire merci Jésus, des choses comme ça, et la présence de Dieu vient sur nous. Et on est rafraîchi lorsqu'on loue le Seigneur. Vous savez, l'ennemi veut remplir nos bouches avec des choses qu'on voit dans le naturel, avec des choses qui nous découragent, qu'on ait une vision vers le bas, mais le Seigneur nous dit de relever la tête et on monte le visage et les yeux, puis on regarde vers le haut et on est encouragé parce qu'on sait que notre Dieu est bon, notre Dieu est grand, notre Dieu est tout puissant. Amen. Et on a une raison aujourd'hui de célébrer Dieu et de se réjouir. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, le message s'intitule « La précieuse épouse de Christ ». Aujourd'hui, on va parler de mariage. Et puis, c'est merveilleux, c'est glorieux. Et on va parler de l'épouse de Christ. Ici, on parle de l'Église, l'Église de Jésus-Christ. Si vous dites « Ben moi, je me fais pas inviter souvent aux noces », bien, vous avez une belle invitation. Tu dis, ben moi, j'en reçois pas de faire part. C'est un mensonge. Voici votre faire part. Vous êtes invité aux noces de l'agneau. Amen. Et je peux vous dire, c'est meilleur que du Saint-Hubert. C'est meilleur que du coq-routi et c'est meilleur que la poutine. Mais aux noces de l'agneau, je peux vous dire, si vous aimez du gâteau fromage, il va y en avoir. Si vous aimez la soupe à l'oignon gratinée, il va y en avoir. Il y a tout ce que vous pouvez désirer aux noces de l'agneau. Des fois, les enfants me posent des questions. Est-ce qu'il va y avoir ça au ciel? Bien, si ça prend ça pour que tu sois heureuse, c'est sûr que ça va être là. Hein? C'est sûr. Amen. Gloire à Dieu. On va maintenant pencher nos têtes et on va prier et remettre cette portion au Seigneur. Père éternel, on veut te remercier pour le Dieu que tu es. On veut te remercier pour ton amour pour nous. Parce que tu t'es déplacé. Tu as envoyé ton Fils Jésus pour venir mourir sur la croix, pour qu'on soit libéré de l'ennemi, pour qu'on soit vraiment affranchi à tous les niveaux. Et aujourd'hui, on se réjouit de notre liberté. On te remercie, Seigneur Dieu, parce que ton Saint-Esprit est ici en ce moment pour nous enseigner ta parole. On te remercie pour l'esprit de révélation dans cette place. On te remercie parce que le nom de Jésus est au-dessus du nom de l'ennemi et de toutes ses œuvres. On te remercie, Seigneur, parce que tu es tellement grand et l'ennemi est tellement petit. Oh, je te remercie pour ta puissance, Seigneur Dieu, qui est dans cette place. Que tous ceux qui ont besoin d'une touche de toi vont recevoir aujourd'hui cette touche qui vient les libérer. Ceux qui ont été brisés dans leur vie, ceux qui ont été malades dans leur corps, ceux qui sont dans la pauvreté. On te remercie, Seigneur Dieu, parce qu'aujourd'hui, nous sommes bénis en toi. Nous ne sommes plus sous la malédiction, mais nous sommes bénis en toi. Et je veux te remercier, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, tu nous donnes l'autorité de rendre toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Et on vient contre tout esprit dans le monde invisible qui voudrait venir endormir mes frères et mes sœurs, qui voudrait venir distraire mes frères et mes sœurs pour les empêcher de recevoir cette parole. Aujourd'hui, nous prenons la décision de recevoir cette parole dans nos cœurs et nous irons à un autre niveau. On a prié au nom de Jésus. Amen. Hier soir, comme je priais, je me réjouissais parce que le Seigneur me disait, même s'il y a eu des temps difficiles, même si des fois il y a eu des vents contraires, savez-vous qu'est-ce qui est merveilleux? Nous sommes déjà à un autre niveau. Amen. Nous sommes déjà à un autre niveau. Vous savez, des fois, l'ennemi vient, il y a des combats, il y a des luttes, il y a des vents contraires, mais comme on se tient là, on continue et on progresse encore. Et j'avais à cœur de vous dire, vous êtes déjà rendu à un autre niveau, enfant de Dieu. Vous êtes déjà rendu à un autre niveau. Gloire à Dieu. On est bénis. On est bénis ensemble et on continue à progresser dans les voies de Dieu. Amen. Et gloire à Dieu, on va avoir l'air climatisé dans deux semaines, dans deux autres semaines. Alléluia. Et l'air climatisé, vous savez, moi, là, je suis vraiment fait pour l'air climatisé. J'ai été en camping une nuit et je montais la tente, je peux vous dire. Puis là, je pensais, mon Dieu, je ne suis vraiment pas appelé comme missionnaire. Je me suis dit, moi, ça mérite la chaleur, l'humidité, j'aime pas ça. Hallelujah, on vit dans un pays froid comme le Canada. Mais l'été, il fait chaud. Le monde, il pense qu'il fait toujours froid ici, mais c'est faux. Hein? Le pasteur Alain Patrick, quand il est venu, il a dit, « Mon Dieu, il fait chaud ici. » Ou il a dit d'autres choses. « Mon Dieu, il dit pas ça, lui, mais il a dit quelque chose d'autre. » Alors, je ne sais pas, quelque chose de français. Amen. On va aller maintenant dans la parole de Dieu, dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27. On parle aujourd'hui de la précieuse épouse de Christ. Et vous êtes précieux pour le Seigneur. Dans Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27, il est écrit, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée. » Ici, ça dit dans Louis II, « par le baptême d'eau », mais c'est une mauvaise traduction, mais ça devrait dire qu'il a, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, parce que la parole lave comme de l'eau. Afin de la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Gloire à Dieu pour ça. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut juste voir, c'est que Christ a donné sa vie pour son épouse. Donc si jamais vous êtes là et puis vous doutez que peut-être le Seigneur ne vous aime pas parce que vous avez fait une chose, vous êtes là puis vous avez vos pensées sur vos manquements. Aujourd'hui, je suis là pour vous encourager avec le fait que le Seigneur vous aime. Il s'est déplacé du ciel à la terre, sur cette terre, pour venir vous sauver. Ça, c'est parce qu'il vous aimait vraiment. Est-ce qu'on peut prendre 2 secondes juste pour réfléchir à ça? Le Seigneur m'aime. Amen. Mais non seulement Dieu vous a aimé, mais Christ s'est donné également pour l'humanité. Et nous voyons ici, concernant l'amour de Dieu, dans Matthieu chapitre 9, verset 36, on voit ici une foule. Et le Seigneur Jésus, ça parle ici du Seigneur, ça dit, « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. » Et vous savez, ça, c'est le cœur de Dieu. Quand les gens sont errants comme ça, languissants, abattus par la vie. Vous savez, l'ennemi, lui, ce qu'il veut faire, c'est toujours venir égorger, voler, détruire. Et puis le Seigneur, c'est un Dieu de compassion. Quand il voit quelqu'un démoli, son cœur est touché et il veut relever la personne. Ça, c'est le Dieu que nous connaissons. Et voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue. Comme des brebis qui n'ont point de berger. Je vais vous inviter également dans Ésaïe 40, verset 11. Ésaïe 40, verset 11, il est écrit, « Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Il conduira les brebis. » Quand le Seigneur nous sauve, non seulement ce qu'il est là pour nous aimer, mais d'une façon pratique, il veut nous conduire. Il veut vraiment faire partie de nos vies. Ça, c'est notre privilège. Si on a vraiment rencontré le Seigneur, c'est pas comme, bon, ben là, le Seigneur m'a sauvé, j'étais dans un trou, le Seigneur m'a relevé, et maintenant, je vais marcher ma vie tout seul. Non, Dieu s'attend qu'on soit vraiment dans une marche avec lui, qu'on marche avec lui tous les jours de notre vie. Il paîtra son troupeau, il va prendre soin de son troupeau. Donc, ne vivez pas votre vie chrétienne d'une façon indépendante. Dans notre société dans laquelle nous vivons, souvent on pense, bien là, on doit s'arranger, on doit se débrouiller, on s'organise tout seul. Mais quand on est un enfant de Dieu, lorsque nous sommes l'épouse de Christ, nous faisons vraiment partie de cette famille royale et le Seigneur nous appelle à être dépendants sur lui. Et dans le psaume 28, verset 9, ici il est écrit, « Sauve ton peuple et bénis ton héritage, sois leur berger et leur soutien pour toujours. » N'est-ce pas merveilleux de savoir que le Seigneur veut vous soutenir? Vous n'êtes pas dans une marche tout seul et dire, ben là, comment est-ce que je vais faire pour arriver? Comment est-ce que je vais faire pour régler tel conflit, tel problème? Non, le Seigneur est là. Et comme une épouse peut se réjouir du fait que son mari est là pour la protéger, prendre soin d'elle, bien, l'Église de Jésus-Christ peut trouver également sa joie dans le fait que le Seigneur est là, l'époux est là, et puis le Seigneur Jésus veut prendre soin de son Église. Donc, la question aujourd'hui s'impose, voulez-vous vous laisser aimer par l'époux? Est-ce que vous voulez que le Seigneur Jésus vous aime vraiment? Ou des fois, on peut dire, comme si on peut parler ici d'une relation humaine, un homme aime une femme, il va la poursuivre, il veut la marier, l'épouser. Et puis des fois, une femme peut courir et dire « Non, je ne suis pas intéressée. » Êtes-vous comme ça quand le Seigneur Jésus veut vraiment avoir cet entretien, cette relation avec vous? Êtes-vous vraiment disponible ou êtes-vous trop occupé, admettons, pour être vraiment avec le Seigneur et passer du temps de qualité avec lui? Mais aujourd'hui, si vous réalisez, c'est vrai, je suis toujours en train de courir et le Seigneur m'invite aux noces, le Seigneur m'invite à avoir un temps fraternel ou un temps plutôt de communion avec lui. C'est le temps aujourd'hui de dire, je vais arrêter, je veux vraiment m'arrêter et passer du temps de qualité avec mon Dieu parce qu'il m'aime. Donc jusqu'à présent, c'est rien de trop compliqué. Mais une des choses qu'on peut voir, comme il y avait cette compassion pour la foule, le Seigneur nous appelle également à avoir cette même compassion. Ici à EVQ, notre appel, c'est de rejoindre les gens aussi, pas juste dans les médias, mais les gens qui sont autour de nous. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui, savez-vous ça? Si on se promène dans la vie, on peut voir qu'il y a des gens souffrants, il y a des gens qui ont des besoins, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont avec toutes sortes de problèmes. Et vous avez la solution. Vous avez rencontré celui qui a toutes les solutions, toutes les réponses possibles, et son nom est Jésus. Alors, comme vous connaissez le Seigneur Jésus, et comme le Seigneur s'est révélé à vous, vous a montré comment il vous aimait, là, c'est à nous d'être un porte-parole, et nous aussi d'être conduits par le Seigneur, par son Saint-Esprit, être remplis de compassion pour les gens qui sont seuls, pour les gens qui ont besoin de cet amour, parce que nous avons tous besoin de cet amour. Une chose qu'on veut voir ensemble, non seulement ce que le Seigneur nous aime, mais il a réservé un avenir glorieux pour son épouse. On va parler un petit peu des noces de l'agneau. C'est l'union de Christ avec son épouse suite à son deuxième retour. Et dans Jean chapitre 14, versets 1 à 3, nous allons voir ici encore le cœur du Père. Dans Jean 14, versets 1 à 3, il est écrit « Que votre cœur ne se trouble point. En passant, l'ennemi de vos âmes voudrait que vous soyez troublés. Mais que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Gloire à Dieu. Donc, non seulement le Seigneur est venu nous sauver, mais il va revenir nous chercher. Gloire à Dieu. Vous croyez dans l'enlèvement de l'Église? Amen. Amen. C'est biblique. En fait, vous pouvez voir la confirmation dans l'Apocalypse 21, versets 1 à 2, si vous écrivez des notes, et 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 à 17, on parle de l'enlèvement de l'Église. Donc, il a aimé son épouse, et puis quand les choses difficiles dans le monde, quand les épreuves, les jugements vont venir sur le monde, le Seigneur va avoir cette provision de protection, il va venir prendre son épouse pour l'épargner des temps mauvais qui arrivent sur l'horizon. Et dans l'Apocalypse 19, versets 7 à 9, nous voyons ici un verset concernant, un passage qui concerne les noces de l'agneau. Jusqu'à présent, c'est rien de compliqué. On peut dire, oui, ça m'intéresse, certainement, je veux faire partie de cette célébration-là, de ce festin. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Ici, c'est un passage prophétique, donc on parle à l'avenir ici. Et son épouse s'est préparée. Une des choses, quand on parle de l'épouse précieuse de Christ, l'épouse précieuse ou l'Église de Jésus-Christ, l'Église véritable, c'est celle qui s'est préparée pour son époux. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir. Remarquez ici, c'est l'épouse qui choisit de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes. Vous savez, nous avons prêché et nous devons continuer à le faire. Le salut par grâce. On n'a rien à faire pour aller au ciel, pour gagner l'amour de Dieu. On ne peut rien faire pour mériter notre salut. Parce que Jésus a tout accompli à la croix. Si on pouvait se sauver par nous-mêmes, par nos bonnes œuvres, par les bonnes choses qu'on pourrait faire, bien Seigneur Jésus serait venu pour rien. Il aurait pu juste dire, écoutez, faites telle chose, donnez de l'argent aux pauvres, construisez des hôpitaux, et puis là, si vous êtes assez bon, je vais vous sauver. Non, mais Jésus est descendu sur la terre pour payer notre dette de péché. Donc, absolument, on doit comprendre qu'on ne peut pas se sauver soi-même. Amen. Donc, on ne peut pas être sauvé par nos bonnes œuvres. Mais ceci dit, on doit revenir au fait que Dieu nous appelle à pratiquer des bonnes œuvres. Dieu nous appelle à faire des bonnes choses. C'est pas parce qu'on n'est pas sauvé par ces bonnes choses-là qu'on devrait rien faire. Et des fois, il y a un déséquilibre dans les églises chrétiennes évangéliques parce qu'on se dit, bien, c'est ça, on est sauvé par la grâce. Oui, mais Dieu a préparé des œuvres à l'avance pour que, afin que nous les pratiquions. Donc, déjà, on doit découvrir les bonnes œuvres que Dieu nous appelle à faire. Et qu'est-ce qui est important ici? Quand on parle des noces de l'agneau, ça dit, les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ici ça nous donne la définition, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit ceci, « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Il me dit, « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Bien, gloire à Dieu, vous êtes invités, cordialement invités au festin. Est-ce que vous voulez faire partie de cette épouse qui va se réjouir pendant l'éternité dans la présence de Dieu? Gloire à Dieu, mais moi je veux faire partie de cette épouse. Gloire à Dieu. Et là, vous pouvez dire, bien, c'est absolument merveilleux. Et savez-vous, je veux juste rajouter un texte. On va aller dans Ésaïe 55. Si vous dites, bien, moi je ne suis pas sûr que je suis digne, ou peut-être même que je puisse en profiter. Si on va ensemble dans Ésaïe 55, versets 1 à 2. Je vais vous lire un texte que j'aime et je trouve ça vraiment merveilleux parce qu'avec le Seigneur, tout est gratuit. Ésaïe 55, versets 1 et 2. « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. » Avez-vous remarqué, ça ne dit pas avec votre Visa Mastercard? Non. Parce qu'il y en a qui vont dire, « Ah oui, même si on n'a pas d'argent, on a notre Visa Mastercard. » Non, non, non. « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » Gloire à Dieu. « Pourquoi pèsez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mes succulents. » Gloire à Dieu, c'est merveilleux. Là, on peut se réjouir et dire, waouh, c'est merveilleux, le Seigneur nous aime et son épouse est précieuse pour lui. Mais là, je dois vous dire des choses. Vous êtes habitués à l'Église de la Victoire. On doit être stimulé dans notre foi. On doit vivre des choses un petit peu, passer au défi. Avant cette union, on doit comprendre, on a vu ici que l'épouse s'est préparée. Dites préparée. Quand une femme se prépare aux noces, habituellement, elle va s'acheter une robe spéciale, elle va peut-être passer chez la maquilleuse, je ne sais pas trop, les femmes qui font les cheveux, on appelle ça des coiffeuses, c'est un mot scientifique, je le sais. Elle va passer voir la coiffeuse, se faire des ongles, hein, va s'acheter des chaussures. Moi, je me souviens quand je me suis marié, on a magasiné, on a fait chaque magasin de la ville de Granby pour trouver des chaussures pour ma femme. On est allé dans un magasin, j'ai vu une paire de chaussures, c'était des chaussures blancs. J'ai dit à Mathilde, c'est suffisant, c'est parfait ça. Mais c'est pas la teinte que je veux ça, pas blanc comme ça, mais un petit blanc cassé ou quelque chose de plus, je sais pas. C'est plus un autre ton là. Mais là je me suis dit, mais personne ne va voir ça, elle va être en dessous de la robe de toute façon. Mais faut que ça soit d'une certaine façon. Et puis on a fait chaque magasin de Granby. Mais non, 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 non. Il n'y avait pas un magasin à Granby qui avait les chaussures qu'elle avait besoin. On s'est rendu jusqu'à Montréal. Imaginez à Montréal, il y a beaucoup de magasins à Montréal. Oh, mais non, 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 pas Montréal aussi. Finalement, on a trouvé une paire de chaussures et on a pu se marier, gloire à Dieu. Mais, tout ça pour vous dire, il y a une préparation à y avoir pour l'épouse de Jésus-Christ. Il y a une préparation. Si dans le naturel, on se prépare, bien on doit se préparer spirituellement pour notre mariage. C'est-à-dire, notre mariage, on est une épouse. Les hommes aussi, on est des épouses. Oui, on parle ici, c'est un langage ici, on comprend Jésus est l'époux, l'épouse est l'Église. Donc, on fait partie de l'épouse. Écoutez bien ceci. L'époux exige, avant le mariage, avant cette union, l'époux exige la loyauté et la pureté de son épouse. Est-ce que ça fait du sens dans le naturel, ça? La loyauté, oui, et la pureté. Comment se préparer? Dans Matthieu 6, verset 24, il est écrit « Nul ne peut servir deux maîtres ». Ensuite, nous lisons « Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon ». On doit choisir. Si nous voulons faire partie de l'épouse de Jésus-Christ, nous devons servir uniquement le Seigneur Jésus. On doit être décidé dans notre cœur « Je veux servir Dieu avec ma vie. Je ne peux pas servir un autre Dieu. » Ici, on parle de Mammon qui était un Dieu relié à l'argent, un culte à l'argent. Mais on aurait pu parler d'un autre Dieu, peu importe le Dieu qui est en compétition avec Dieu. Le Seigneur Jésus n'accepte pas une compétition, il n'accepte pas un idole dans votre vie. Donc, si vous voulez vraiment faire partie de ce festin glorieux, vous devez prendre la décision que le Seigneur Jésus est mon seul Dieu. Amen. Certains vont dire, oui, mais ça, c'est exclusif, c'est intolérant. Bien, êtes-vous tolérant à avoir 2-3 femmes, monsieur? Peut-être des hommes vont dire oui, là, mauvaise question. Madame, seriez-vous tolérant? Accepteriez-vous que votre mari ait 2-3 femmes? Non, 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 non. Oui, c'est exclusif. Le mariage, c'est exclusif. C'est exclusif. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus a dit la vérité. Une fois, je me suis fait couper les cheveux par un homme dans une religion. C'était un musulman. Et puis, il me disait, vous savez, il y a plein de chemins qui mènent à Dieu. Mais lui, en même temps, il me disait, oui, nous croyons en Jésus, mais c'est un prophète. J'ai dit, si c'est un prophète, croyez-vous ce que le prophète a dit? Oui, oui, oui. J'ai dit, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Croyez-vous ça? Non. Mais il faut croire ce que Jésus a dit. Si Jésus est un prophète, il disait la vérité. Hein? Ça fait du sens? Est-ce que ça fait du sens qu'un prophète de Dieu, qu'un porte-parole de Dieu, il dirait la vérité? Absolument. Gloire à Dieu. Donc, on ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir un dieu du bouddhisme, de l'hindouisme. Il y a des gens qui disent, tous les chemins mènent à Dieu. Ça, c'est faux. Vous pourrez juste faire des recherches. Allez sur YouTube. Je l'ai déjà parlé il y a quelques temps, mais je trouve ça assez remarquable. Allez sur YouTube et tapez les temples des rats. Temple de rats, des rats. Et puis, vous pourrez voir, il y a des gens qui vont faire des cultes aux rats. Et puis, ils vont avoir des bassins de lait. Et les rats vont aller boire là. Et pendant que, toutes sortes de choses se passent dans la société, les gens vont donner, ils vont offrir des offrandes à ces rats-là. Et puis là, vous rentrez dans le temple des rats. Et puis, il y a des excréments partout à terre. Et puis, vous devez marcher là-dedans, nu-pied. Et là, qu'est-ce qui est vraiment merveilleux, c'est lorsqu'on prend un peu de lait où les rats sont en train de s'abreuver. Là, vous prenez du lait avec des excréments dedans, en passant. Et si vous buvez ça, c'est encore plus béni, plus sain. Je peux vous dire que ça, c'est vrai, c'est des faits. Et là, on dit, même si vous avez la foi que le rat va vous sauver, protéger vos enfants, même si vous priez très, très fort au rat, je peux vous dire que c'est faux, ça. Amen. Il y a un seul Dieu et son nom est Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Donc, l'époux exige la loyauté et la pureté de son épouse. Donc, la loyauté, c'est certain. Exode, chapitre 20, verset 5. « Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Dites « jaloux ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire simplement, on ne peut pas partager notre amour avec un autre Dieu. C'est simple, c'est pas trop compliqué. L'épouse est appelée à être loyale envers son Dieu, mais comment? En croyant sa parole. Donc, si on veut vraiment dire, moi, là, je veux être l'épouse de Christ, je veux vraiment honorer mon Dieu, être loyal envers mon Dieu, bien, je dois croire ce que mon Dieu dit. Donc, ça veut dire, je dois croire la parole de Dieu. Et dans Éphésiens 5, 24, ça dit que l'Église est soumise à Christ. Donc, Christ qui est la parole incarnée, nous devons croire la parole de Dieu. Mais il y a une Église qui vit l'adultère spirituel. Une église dans l'adultère spirituel. Vous avez dit, mais quelle sorte d'église? C'est une église qui ne croit pas la parole de Dieu, mais qui croit plus la tradition des hommes. La tradition où nous avons entendu un rapport qui vient des hommes, et même si la Bible dit des choses, on va croire plus la tradition des hommes au lieu de croire le rapport divin. Voulez-vous faire partie de l'église adultère? Non. Donc, ce que nous avons besoin, c'est de revenir à la parole de Dieu. L'Église, dans l'adultère spirituel, a trahi Dieu. Elle a trahi Dieu. Elle a échangé sa parole pour la tradition des hommes. Et lorsque nous prêchons la parole de Dieu, peu importe le message, souvent les gens vont dire « Oui, mais je suis pas sûr que je crois ça. » Mais quand on lit la parole de Dieu et les gens disent « Mais je doute cette chose-là », il y a un problème. Il y a un problème. On doit vraiment revenir et dire « Si Dieu l'a dit, je dois croire Dieu. » Même si ce que j'ai entendu, c'était différent. Peut-être c'est les gens qui se trompent et peut-être Dieu dit vrai. Gloire à Dieu. Mais nous, on croit la parole de Dieu. Dans cette maison, nous sommes déterminés. Nous allons croire la parole de Dieu. Même si on est des fois pas à la mode, même si des fois on est contraire aux traditions qui circulent dans cette région. Mais on doit croire la parole de Dieu. Une des choses que ça nous appelle, c'est à vivre la pureté doctrinale. On parle ici de l'épouse de Jésus-Christ qui doit marcher dans la loyauté et dans la pureté. Bien, la pureté pour l'épouse de Jésus-Christ, c'est la pureté doctrinale. En passant, l'époux, ce n'est pas un batteur de femmes. Écoutez bien ceci. L'époux, Jésus-Christ, aime son épouse et puis ce n'est pas un batteur de femmes. Croyez-vous ça ce matin? Ne bat pas son épouse. Il y a des gens qui disent, oui, mais écoutez, on dit toutes sortes de traditions sur Dieu. Par exemple, la maladie glorifie Dieu. Avez-vous déjà entendu ce mensonge-là? La maladie glorifie Dieu. Je peux vous dire, juste avant d'aller plus loin, Dieu peut se glorifier dans n'importe quelle situation. L'ennemi peut faire quelque chose de négatif, mais l'ennemi peut venir vouloir détruire. Mais Dieu, lui, est capable de transformer cette chose-là pour votre bien. Et là, Dieu peut se glorifier certainement. Mais Dieu n'est pas l'auteur des choses qui viennent vous détruire. Amen? Donc, la maladie, ce n'est pas l'instrument de Dieu pour se glorifier. Voulez-vous que je vous montre dans la parole de Dieu comment Dieu se glorifie? Premièrement, nous savons que lorsque nous portions beaucoup de fruits, lorsque notre vie est remplie de fruits, Dieu est glorifié. Mais nous voyons dans Marc chapitre 2 verset 11 à 12, dans Marc chapitre 2 verset 11 à 12, nous voyons ici comment Dieu aime se glorifier. « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, c'est Jésus qui parlait, il parlait au paralytique, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Voyez-vous, ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. C'est ça qui glorifie Dieu. C'est lorsque la bonté de Dieu est déversée sur une personne, lorsque le miraculeux est là, lorsque le royaume de Dieu est manifesté et les gens découvrent le royaume de Dieu, son amour, sa bonté. Là, ça glorifie le Dieu parce que le caractère de Christ est révélé. Dieu est amour et puis il veut restaurer. Donc, c'est plutôt la guérison qui glorifie Dieu. Amen. Donc, on doit revenir à la parole de Dieu, même si la tradition, les gens, surtout dans la région, ils vont beaucoup croire que Dieu se glorifie par la maladie, Dieu se glorifie le plus qu'on est malade, le plus que Dieu va avoir de la gloire, et là, on va aller chez le médecin pour aller enlever la gloire. Non, si vous croyez ça, que Dieu se glorifie par la maladie, pourquoi osez-vous prendre l'aspirine? Vous allez enlever la gloire de Dieu? Mais ça ne fait pas de sens, n'est-ce pas? Donc, il faut revenir à la pureté doctrinale. Une autre chose, un autre exemple, Dieu enseigne par la maladie. Avez-vous déjà entendu cette chose-là? Que Dieu enseigne par la maladie. Que la maladie, c'est quasiment l'école du Saint-Esprit. Mais pourtant, 2 Timothée 3, verset 16 à 17, Dieu nous dit comment lui enseigne son Église. Dans 2 Timothée 3, verset 16 à 17, en passant, c'est certain, si on marche dans le péché, on est en train de semer dans le péché et on va récolter la corruption. C'est certain. Hein? On n'est pas en train de dire marchez comme vous voulez et vous ne vivrez pas d'épreuves et des conséquences. Si on marche dans le péché, Dieu a établi des lois spirituelles. Ce qu'on va avoir semé, on va récolter. Mais remarquez, le choix de Dieu pour votre enseignement, ce n'est pas de vous envoyer un cancer. 2 Timothée 3, 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Dites utile.
Utile.
Pour enseigner. Dites enseigner.
Enseigner.
Pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, la méthode que Dieu va utiliser pour vous enseigner, ce n'est pas le cancer, mais c'est la parole de Dieu. Je vais le relire. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ben, gloire à Dieu. C'est ça que je crois aujourd'hui parce que c'est ça que Dieu dit. Donc, la pureté doctrinale, nous devons revenir à la pureté de la parole de Dieu. Également, la pureté dans notre témoignage. Dites témoignage.
Témoignage.
Gloire à Dieu. Donc, Dieu appelle son épouse à marcher dans la pureté à ce niveau-là. Dans 2 Corinthiens 6, verset 3, c'est un texte important. 2 Corinthiens 6, verset 3, l'apôtre Paul, il dit, « Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. » Donc ici, nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit jamais un objet de blâme. Je dois vous dire, le Seigneur nous appelle à marcher justement comme nous avons lu concernant l'épouse. Elle est revêtue de fin lin éclatant pur. Dieu nous appelle non seulement à dire les bonnes choses sur Dieu et croire les vraies choses et dans la pureté doctrinale, mais Dieu nous appelle également à avoir une vie qui glorifie Dieu dans notre comportement et dans notre façon de vivre. Ça veut dire quand on marche dans cette vie chrétienne, les gens peuvent nous regarder et savoir que nous marchons dans l'intégrité, que nous marchons dans des relations qui sont saines, nous glorifions le Seigneur. Amen. Bien, j'ai déjà côtoyé un pasteur et son épouse, et puis on avait des temps juste de partage, et puis là, il y avait une sœur de l'église qui venait visiter le couple pastoral, et la sœur donnait des massages au pasteur dans la présence de son épouse, mais elle était très gentille, puis elle voulait donner des massages au pasteur, pour le soulager, le détendre, et son épouse était là. Sauf que on trouvait ça un peu bizarre, mon épouse et moi. On trouvait ça bizarre, mais on s'est dit, bien, l'épouse est là, ça ne semble pas la déranger vraiment. Mais elle donnait des massages. Et je peux vous dire, ce n'est pas de Dieu. Mais là, cette même femme donnait des massages de pied à l'épouse. Bon, mais vraiment fine, là. Elle veut vraiment bénir la femme de l'épouse aussi. Mais qu'est-ce qu'on a su plus tard? Bien, c'est pas une bonne relation. Je vais juste dire ça. C'est pas une bonne relation. Ici, Satan désire salir le témoignage de l'épouse. Une des choses, des fois on peut dire, oui, mais c'est innocent. C'est innocent ce qu'on fait. On n'a pas de péché. Il n'y a rien de mauvais. Soyez conscients que l'ennemi veut salir le témoignage de l'épouse. Par exemple, un homme ne devrait pas trouver un refuge ou la consolation chez une autre femme. Amen.
Amen.
Moi, si j'ai des problèmes, je vais parler avec ma femme. Amen. J'appellerai pas une autre femme de l'église pour dire, ben là, j'ai besoin de consolation, d'encouragement. Ça, c'est malsain, enfant de Dieu. Dieu nous appelle, ou une femme ne devrait pas appeler un autre homme de l'église, ou un autre homme même dans la société. Votre confident devrait être votre mari ou votre épouse. Gloire à Dieu! Je suis d'accord avec moi-même. Satan désire salir le témoignage de l'épouse. Il va toujours prendre des façons innocentes. Remarquez, je ne sors jamais au restaurant avec une autre femme. Ma femme est toujours là. Je ne fais pas de relation d'aide avec une femme. Ma femme est toujours là. Si on fait de la relation d'aide, c'est en couple quand c'est une femme. Pourquoi on doit protéger notre témoignage? Je n'irai pas au cinéma avec une sœur dans l'église et dire, ben, on est des amis. Non, parce que là, on est un mauvais témoignage. Il y a des gens de l'extérieur qui peuvent me voir et dire, regarde, pasteur, je l'ai vu avec une autre femme au cinéma. Oui, mais c'est juste une amie. Non, on ne fait pas ça. Hallelujah. Gloire à Dieu. Je vais vous donner un texte pour ça, parce que vous dites, ah oh, ben là, il est vraiment arriéré. Ben oui, je suis vraiment arriéré, ça fait 2000 ans que c'est là, mais que voulez-vous, c'est biblique. 1 Thessaloniciens 5, verset 22. Vous savez, l'époux aime son épouse, mais en même temps, l'époux a donné des indications, pas des indications, mais le chemin qu'on devrait suivre pour qu'on soit heureux dans la joie. 1 Thessaloniciens 5, 22, ça dit, « Abstenez-vous de toute espèce de mal. » Mais j'aime mieux en anglais, puis je vais lire juste en anglais pour les anglophones. Ça dit, « Abstain from all appearance of evil. » Ou « Abstenez-vous de même l'apparence du mal. » Même ce qui peut sembler être interprété comme étant mal. Ça veut dire, admettons que je suis tout seul à la maison, je ne recevrai pas une femme en visite chez nous. Gloire à Dieu! C'est la même chose pour vous. Si vous êtes seul chez vous, vous êtes marié ou vous êtes célibataire, peu importe, vous devez toujours garder votre témoignage intact. Alléluia! Colombe, abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Donc, soyez conscients. Vous marchez dans la pureté, dans la loyauté envers Dieu. Bien, ce que vous devez faire, c'est protéger votre témoignage. Gloire à Dieu! Vous savez, il y a eu dans la région quelqu'un, un prédicateur bien apprécié qui est venu. Et puis, il y a des gens de l'église qui se posaient la question, « Mais pourquoi le pasteur ne l'invite pas? » Là, vous ne savez pas, ça fait longtemps qu'il est venu. Donc, ça fait, vous ne pouvez pas savoir c'est qui. Mais je savais que cet homme-là ne voyageait pas avec son épouse, mais il voyageait avec sa secrétaire. Je ne me tiendrai jamais derrière le pépite et dire, « écoutez, on ne peut pas inviter ce prédicateur-là parce que moi, je trouve ça un désordre dans sa vie personnelle. C'est qu'une des choses que je vous demande en tant que frère et sœur dans cette maison, vous devez faire confiance que votre berger est guidé de Dieu. Parce que je ne pourrais pas toujours vous expliquer les raisons pourquoi je prends des décisions. Savez-vous ça? Je ne pourrais pas toujours. Parce que des fois, vous pourrez dire, mais pourquoi que la personne n'invite pas cette personne-là? C'est quelqu'un fantastique, formidable, regarde les fruits. Je ne pourrais pas toujours tout divulguer sur une personne. Quand le Seigneur, des fois, nous montre des choses, vous devez juste dire, s'il n'est pas invité, c'est entre les mains de Dieu. Peut-être vous pourrez me dire, savez-vous qu'il y avait quelle personne en visite? Peut-être je ne sais pas. Mais admettons, je le sais, puis ah ben, gloire à Dieu. Peut-être juste le Saint-Esprit ne m'a pas donné une conviction qu'on devait l'inviter, mais peut-être aussi je connais des choses que vous ne savez pas. Amen. Je vous dis ça, faut garder notre pureté. Et un évangéliste qui se promène avec sa secrétaire et pas son épouse ne sera jamais invité ici. Amen. Gloire à Dieu. Je sais qu'on n'est pas à la mode. Gloire à Dieu. Alléluia. Bon, on continue. Vous êtes encore avec moi? Donc, on veut protéger notre témoignage, la pureté dans notre témoignage. Une autre chose, là, vous avez dit, OK, c'est merveilleux, l'époux nous aime, il veut qu'on marche dans ses voies, mais l'époux aussi désire protéger son épouse. C'est comme un mari qui aime son épouse. J'aime ma femme. C'est normal que si quelqu'un voulait venir attaquer ma femme, je voudrais la protéger, n'est-ce pas? Si vous avez un bon mari, mesdames, votre mari veut vous protéger. Hein, c'est normal, c'est tout à fait normal. Et le Seigneur Jésus veut vous protéger. Comment est-ce qu'il vous protège? Bien, il peut vous protéger surnaturellement, certainement. Il peut envoyer des anges pour venir vous protéger, vous garder du malheur. On l'a vécu. Hein, notre véhicule qui s'en allait vers un mur a été surnaturellement déplacé lorsque nous avons crié le nom de Jésus. C'est merveilleux. Mais il y a d'autres façons vraiment terre-à-terre, pratiques que le Seigneur emploie pour nous protéger. L'époux a établi pendant son absence, le Seigneur Jésus est au ciel, le Saint-Esprit est avec nous, amen. Mais l'époux a établi des gardiens, des protecteurs qui veillent sur son épouse. Et ces protecteurs-là s'appellent, révélation, des pasteurs. On est des bergers, des protecteurs. Et l'époux qui aime son épouse a des délégués, des représentants qui sont là pour protéger le troupeau de Dieu. Et c'est pour ça aujourd'hui je vais vous parler un peu du rôle du pasteur. Parce que peut-être vous êtes un enfant de Dieu depuis quelques jours, quelques semaines, et vous ne connaissez pas mon rôle. Et peut-être vous êtes un chrétien de longue date, mais vous n'avez vraiment jamais découvert le rôle véritable du pasteur. Et aujourd'hui, ça me fait mon plaisir de vous raconter ces choses-là. Gloire à Dieu. Le rôle du pasteur dans une église, de cette église, cette épouse précieuse. Premièrement, la chose que Dieu nous appelle en tant que berger à faire, c'est d'aimer les brebis. Mon rôle, mon premier rôle, c'est de vous aimer. Et comment est-ce que je peux vous aimer? Bien, c'est en priant pour vous, à chaque semaine, à chaque jour, prier pour les brebis, qui sont les brebis du Seigneur Jésus, qui font partie de l'épouse de Christ. Mon rôle, c'est d'aimer chaque personne dans cette église. Amen. Acceptez-vous ça? L'amour, vous n'avez pas trop de misère avec ça. Mon rôle, c'est d'aimer les brebis. C'est d'être une extension de l'amour de Dieu. Mais là, je dois vous expliquer une chose. Vous savez, il y a toujours de la nuance, hein? Des nuances. Mon rôle, c'est de vous aimer. Mais là, je vais vous faire comprendre une chose. Chaque personne qui arrive dans une église arrive avec un dossier. J'ai parlé de ça avec mes leaders de groupe vie. Mais je vous explique. Chaque personne, vous êtes une personne sur un banc ici. Chaque personne dans cette église a un dossier ou une chemise avec une liste d'attentes que vous avez de votre pasteur. Je vais vous expliquer certaines choses. Vous vous attendez que le dimanche matin que je vais prêcher, n'est-ce pas? Certains d'entre vous, vous attendez qu'il va avoir un message. La majorité, je pense que vous avez cette attente-là. Vous vous attendez que si vous êtes malade, le pasteur ou quelqu'un de l'équipe pastorale va s'investir dans votre vie, va vous appeler, prendre soin de vous. Hein, c'est normal, une attente normale. Si ça va mal, vous attendez que le pasteur va être présent, prier pour vous. Vous avez des attentes et c'est tout à fait normal, légitime. Et le Seigneur nous donne, les pasteurs, des responsabilités, des choses que Dieu nous appelle à faire pour prendre soin de ses brebis. Mais là, imaginez, chaque personne dans l'Église a sa liste, son dossier d'attente. Multiplier les attentes, multiplier les dossiers, et comme une église grandit, il y a des dossiers qui s'élèvent sur le bureau du pasteur. Il y en a comme, si vous avez 1000 personnes dans votre église, bien, il y a 1000 dossiers sur le bureau du pasteur. Une des choses, le rôle, comme j'ai dit, du pasteur, c'est d'aimer les brebis, mais vous devez comprendre que le berger, c'est un sous-berger. Christ est le grand berger et le berger ne peut pas répondre à toutes les attentes que les gens peuvent avoir. Parce que l'être humain, bon, le pasteur demeure un être humain et l'être humain ne peut pas être Dieu. On est des représentants de Dieu et on veut aimer les brebis, être une extension de Dieu. Mais il faut aujourd'hui s'arrêter et dire, est-ce que j'ai des attentes peut-être énormes sur mon pasteur? Pourquoi je vous dis ça? C'est pour vous aider. C'est pour vous aider parce que si vous avez des attentes, vous devez comprendre qu'un pasteur ne peut pas répondre à tous les besoins. C'est pour ça, c'est important pour vous d'être dans un groupe vie. Parce que dans un groupe vie, vous allez avoir un soutien spirituel. Ça demeure que le pasteur est toujours là, mais vous avez besoin d'un soutien comme ça dans la prière. Et donc, ça va vous aider aussi à avoir plus de grâce envers votre pasteur, parce que vous allez réaliser, il y a un bon cœur quand même. J'avais une attente, je m'attendais que le pasteur était pour découvrir que j'avais un problème sans que je lui en parle. Oui, j'ai des gens comme ça, tu ne m'as pas appelé, j'avais tel problème. Moi, je ne peux pas deviner ce que vous ne me dites pas. Le Seigneur, des fois, me donne des rêves, c'est vrai. Des fois, le Seigneur me donne, puis je peux vous appeler et dire, le Seigneur m'a donné un rêve où j'ai vraiment un fardeau pour toi de Saint-Cy. Ça peut arriver. Mais n'attendez-vous pas que je vais connaître tous les besoins de tout le monde sans me le dire. Amen. Donc, c'est juste des attentes. C'est important d'avoir des temps de famille comme ça, des temps familiales où qu'on puisse vraiment parler de ces choses-là. Ça va vous aider à être content dans l'Église. Parce que si vous avez une attente, je m'attendais que telle chose arriverait. Puis là, il y en a 10 qui ont des attentes. Comme ça, vous allez être insatisfait et devenez qu'est-ce qui se passe avec les gens insatisfaits. Ils deviennent critiqueux et grogneux et irritables. Mais pourtant, on s'aime, n'est-ce pas? On s'aime, mais c'est ça qui arrive. Et là, l'ennemi joue là-dedans. Regarde, le pasteur t'aime pas. Il t'a même pas appelé. C'est comme ça, il y a des attentes comme ça. Mais un être humain ne peut pas répondre à toutes les attentes. Donc, le premier rôle, c'est aimer les brebis. Deuxième chose, c'est nourrir les brebis. Dans Jean 21, 17, il est écrit, « Paix mes brebis » ou dans la Bible du Sommeur, « Prends soin de mes brebis ». Je suis là en tant que pasteur et quand on découvre dans une église, une équipe pastorale, quand les pasteurs prêchent la parole, notre responsabilité, c'est de nourrir le peuple de Dieu. C'est notre responsabilité, quand je prêche ici un dimanche matin, j'ai passé la semaine à prier pour connaître la voix de Dieu pour ce message, pour savoir quel était le besoin de cette maison. Je ne sors pas des notes d'un vieux cahier et dis « Bon, je vais prêcher ça, ça fait longtemps que je n'ai pas prêché ça. » J'ai jamais fait ça. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est amener la nourriture fraîche pour que le peuple de Dieu soit nourri. Amen. Donc, ma responsabilité, je cherche de tout mon cœur à connaître la voix de Dieu pour vous amener la nourriture dont vous avez besoin. Donc, c'est ça, nourrir les brebis. Une autre chose, on a dit que Dieu va protéger par des protecteurs qui sont des bergers, des pasteurs. Donc, une des responsabilités, c'est de protéger les brebis. Protéger les brebis. Vous savez, des fois, on veut protéger nos enfants. On dit, tiens-toi loin de la piscine, là, il n'y a pas de surveillance, viens-t'en avec nous, on veut te protéger. Ou mets pas tes mains sur le fourneau, il est chaud. Et des fois, un enfant pourrait dire, bien, ça me tente de toucher le fourneau. Ça ne me tente pas là, de t'écouter. Des fois, il va avoir la chair comme ça, qui peut venir et causer des défis. Mais notre rôle en tant que pasteur, c'est de protéger du danger spirituel. Ici, je vais vous lire un texte qui est l'inverse d'un vrai berger de Dieu. Dans Ésaïe 56, versets 10 à 11, je vais vous montrer ici l'inverse du cœur de Dieu. C'est un berger qui ne protège pas ses brebis, les brebis de Jésus. Ésaïe 56, versets 10 à 11. « Ses gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. » Vous savez, des fois, quand un chien se met à crier, pas crier, à japper, là, aboyer, là, on n'aime pas ça, hein, c'est fatigant des fois. On dit, arrête donc, c'est fatigant. Mais des fois, il y a un danger, c'est pour ça que le chien se met à aboyer. Incapables d'aboyer, ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt jusqu'au dernier. Donc ici, le danger spirituel est là, mais il y a des bergers qui ne veulent pas japper, ils ne veulent pas déplaire. Mais mon rôle en tant que berger, selon Dieu, selon le cœur de Dieu, c'est des fois je vais vous déplaire en disant des choses, il y a un danger. Il y a un danger pour toi dans cette situation-là. Ça, c'est mon rôle. Mais l'acceptez-vous aujourd'hui que ça se peut que le Seigneur se serve de moi pour vous avertir de certains dangers? L'acceptez-vous dans votre vie? Amen. Puis, ici, je vous dis, le rôle de Dieu, pas le rôle de Dieu, le rôle du pasteur, selon le cœur de Dieu, c'est ça que Dieu veut, là. Est-ce qu'on est parfait? Certainement pas. Personne n'est parfait, n'est-ce pas? Mais si notre cœur est pour Dieu, on va essayer le mieux qu'on peut pour vraiment répondre à l'appel. Une autre chose, protéger les brebis, non seulement du danger spirituel, mais de la séduction des faux prophètes. Saviez-vous qu'il va y avoir des faux prophètes qui vont rentrer dans les églises pour séduire les gens? Saviez-vous ça? Dans Matthieu chapitre 7, versets 15 à 17, il est écrit, « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis. » Ça veut dire qu'ils ont de l'air doux, des vêtements de brebis. Ils sont doux. Des fois, ils peuvent se sentir comme, ils attirent la pitié ou la compassion parfois. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Amen. Donc, s'il y a quelqu'un dans votre vie, quand vous êtes avec la personne et la personne vous tire vers le bas, et puis vous dites, oui, mais c'est une personne qui aime le Seigneur, mais si cette personne-là vous emmène vers le bas, et quand vous sortez d'un temps avec la personne, le Saint-Esprit a été attristé, vous avez vraiment besoin de faire attention. Quand on est dans la compagnie d'un enfant de Dieu qui aime le Seigneur, qui est vraiment une vraie brebis, vraiment l'épouse de Christ, le Saint-Esprit ne sera pas attristé quand vous êtes ensemble. Mais si vous êtes avec quelqu'un et qui vous parle en mal de votre berger, qui vous parle en mal d'un frère et d'une sœur, le Saint-Esprit en vous va être attristé. Et c'est normal parce que Dieu vous donne aussi le Saint-Esprit pour être protégé, qui est là pour vous avertir, il y a quelque chose qui cloche. Là, vous allez dire, oui, mais comment est-ce qu'on peut vraiment savoir si cette personne-là est dangereuse? Vous allez les reconnaître par leurs fruits. Amen. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Amen. Donc, vous avez à investiguer, évaluer, est-ce que la personne porte les fruits de l'esprit dans sa vie, selon Galates 5, 22? Est-ce qu'elle porte vraiment les fruits de l'esprit? Et vous savez, on n'abandonne jamais les gens s'ils ont besoin d'une touche de Dieu, ils ont besoin de repentance, on ne met jamais des gens de côté. Mais on doit faire attention. Et le rôle du pasteur, c'est de protéger les brebis des faux prophètes. Et dans 2 Pierre, chapitre 2, versets 17 à 19, dans la Bible du Sommeur, ça nous parle des enseignants, des faux enseignants. Ces enseignants de mensonges sont comme des sources qui ne donnent pas d'eau. Ou dans Louis II, des fontaines sans eau, comme des nuages poussés par la tempête. Dieu leur a réservé une place dans les ténèbres les plus profondes. Donc ici, on parle des faux enseignants, des enseignants de mensonges qui mentent. Et c'est des sources sans eau. Vous allez vers eux, mais vous ne trouverez pas la parole de Dieu. Amen. Donc, jusqu'à présent, il n'y a rien de trop compliqué, mais c'est des choses qu'on doit, comprendre. Parce qu'on est l'épouse de Christ. Dieu aime son épouse. Il va envoyer des pasteurs, des bergers, pour protéger celle que Dieu aime. Amen. Mise en garde pour l'épouse maintenant. Le rôle du pasteur peut être neutralisé ou non opérant dans votre vie. Saviez-vous ça? Vous pouvez avoir un pasteur, mais son rôle est neutralisé, annulé dans votre vie. Vous marchez avec le Seigneur et puis vous êtes dans une église locale, mais ça se peut que votre pasteur ne peut pas vous protéger et je vais vous montrer pourquoi. Parce que l'ennemi est sournois. L'ennemi est sournois. Une des choses, l'ennemi désire éloigner les brebis de leur berger afin qu'elles soient spirituellement vulnérables. Écoutez bien, l'ennemi veut éloigner une brebis de leur berger afin qu'elle soit spirituellement vulnérable. Quand la brebis est tout seule, quand elle est éloignée d'une façon ou d'une autre, l'ennemi peut plus venir l'attaquer. C'est une chose qu'on doit comprendre. Une des façons que l'ennemi veut éloigner la brebis, premièrement, c'est émotivement ou émotionnellement. C'est dans les émotions. Ça va commencer dans les émotions. Avant que ça soit physique, on commence là. L'ennemi, il va commencer là. Il va susciter de fausses accusations contre le berger. Aujourd'hui, vous allez dire, oui, mais pasteur, là, tu prêches pour ta paroisse. Non, je prêche pour votre paroisse. Parce que si je suis là, c'est parce que Dieu m'a mis là pour vous protéger. Mais l'ennemi veut emmener une séparation entre vous et moi. Savez-vous ça? L'ennemi n'est pas content que vous êtes assis dans cette église. L'ennemi préfère, il aimerait bien mieux si vous restiez à la maison. Mais une des façons qu'il va faire, il va venir créer un mur entre moi et vous, vous et moi, pour que je ne sois pas capable d'être le pasteur que Dieu m'appelle à être pour vous. Donc, je prêche pas pour ma paroisse, je prêche pour votre paroisse aujourd'hui. Je prêche pour votre bien. Ici, ça dit, il suscite des fausses accusations contre le berger pour créer des problèmes émotionnels. Comme ça, vous allez être séparés de moi. Dans 1 Timothée 5, verset 19, il est écrit, « Ne reçois point d'accusation contre un ancien. » Ici, un ancien, c'est pas un pasteur, c'est quelqu'un qui a été placé, par exemple, comme l'apôtre Paul dans une église, ok, comme un ancien, mais ne reçois point d'accusation contre un ancien ou encore un pasteur, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Si elle n'est pas appuyée par 2 ou 3 témoins. Pourquoi pensez-vous que, ici nous retrouvons l'apôtre Paul qui dit à son fils spirituel Timothée, ne reçois point d'accusation contre un ancien? C'est parce qu'il y a un danger spirituel. Il y a vraiment un danger spirituel. Si on attaque un berger, un homme de Dieu, là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un danger pour vous. Parce que le moment qu'il y a une attaque contre votre berger, vous êtes séparés de lui si vous croyez l'attaque, et puis là, vous ne pouvez plus faire confiance que votre berger va vous aider, que votre berger va vous protéger. Écoutez bien ceci, si vous perdez la confiance dans votre leadership spirituel, vous ne pourrez plus vous soumettre et croire que votre leadership spirituel va vous protéger. Parce que déjà là, vous avez cru un mensonge, que quelqu'un est venu accuser. Mais comprenez, ça ne veut pas dire que les pasteurs sont infaillibles et qu'ils ne peuvent pas chuter. Mais s'il y a une vraie situation grave, ça dit, la Bible exige 2 ou 3 témoins. Parce que quand on parle contre un homme de Dieu, un pasteur, c'est sérieux, c'est gravement sérieux, parce que l'état spirituel d'une personne est en jeu. Comprenez-vous ça? Donc, s'il y a une situation, ça prend 2 ou 3 personnes qui arrivent et qui disent, on a cette situation qui doit être réglée, c'est ça qu'on voit présentement, et c'est très grave. Mais ça veut dire, on ne parle pas contre un pasteur à un barbecue et à un repas. On ne fait pas ça. Si vous faites, vous êtes dans un péché devant Dieu et vous devez vous repentir. Vous dites, oui, mais là, tu prêches pour ta paroisse. Non, je prêche vraiment pour vous et je prêche pour notre paroisse. Parce que savez-vous qu'est-ce qu'on va faire dans cette église? On est une église qui ne vivra jamais de division. Écoutez bien ce que je vous dis. Cette église ne vivra jamais de division parce que nous sommes des bergers. Les pasteurs de cette église, nous prions ensemble et nous prions la protection de Dieu sur vos vies. Et il n'y a aucun démon de l'enfer qui va prospérer dans ses efforts de diviser cette église. Il n'y a aucun démon de l'enfer qui va semer la pagaille et la division dans cette église. Cette église marche selon la parole de Dieu. Ceux qui ne marchent pas selon la parole de Dieu pourront quitter cette église. Parce que nous, comme j'ai dit au début, nous sommes loyaux envers Christ. Nous sommes loyaux envers sa parole. Amen. Hallelujah. Bon, je continue. Physiquement. Donc, il va éloigner émotionnellement au début, créer des malaises. On voit dans Apocalypse 12, verset 10, l'accusateur des frères, c'est Satan. Donc, quelqu'un qui parle contre son pasteur, il se range du côté de l'accusateur, de Satan lui-même. Il s'unit avec Satan. C'est ça que ça dit dans Apocalypse 12, 10. Donc, qu'est-ce qui se passe par la suite? C'est une attaque physique. Il veut éloigner physiquement la personne. Il suscite des fausses accusations contre l'Église maintenant. C'est pas juste contre le berger, mais c'est contre aussi les frères et les sœurs pour créer de la division, pour isoler la personne, pour que la personne s'éloigne. Écoutez bien ceci. Vous êtes l'Église de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Amen. Vous êtes des enfants et des filles et des fils de Dieu dans cette maison? Amen. Certains, vous n'êtes pas convaincus, mais... Êtes-vous des enfants de Dieu? Bon, mais vous êtes l'Église de Jésus-Christ, vous êtes l'épouse de Christ. Amen. Bon, si j'étais Jésus, pensez-vous que j'aimerais ça, que les gens parlent contre mon épouse? Juste en t'arrêtant, non. Si vous venez me voir, écoutez bien ceci. Je pense que c'est en Alberta que j'ai vu... Non, c'est... une autre place. Quelqu'un est venu me parler contre la petite blonde dans la ligne de prière. La petite blonde que je connais très bien, qui s'appelle Mathilde Gaudreau, Spinks. Je dois vous parler une femme dans la ligne de prière. Et... Là, j'écoutais. Je me suis reviré de bord. On a mis cette femme en dehors de l'église. Elle attaquait ma femme. Ma femme! Pensez-vous que je vais recevoir quelqu'un qui attaque ma femme? Non. Si vous ne saviez pas, non. Non. Mais Christ il n'aime pas ça qu'on attaque sa femme, son épouse. Vous êtes l'épouse de Christ. On ne parle pas contre l'épouse de Christ. Donc, ça veut dire, j'accepterai jamais qu'on attaque ma femme et Christ n'acceptera jamais qu'on attaque les frères et les sœurs de cette Église. Dans Proverbe 24, verset 28, ne témoigne pas à la légère contre ton prochain. Voudrais-tu tromper par tes lèvres? Matthieu 12, 36, je vous le déclare, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole sans fondement qu'ils auront prononcé. Ça, c'est tellement grave, c'est tellement sérieux, parce que c'est toujours par la langue que l'ennemi divise. C'est par la langue, c'est jamais par une grande chose, c'est toujours par la langue. Et je termine avec ceci. L'ennemi désire voler les brebis de leur confiance en leur berger afin qu'elles soient spirituellement vulnérables. Donc, c'est un voleur de confiance. Une des façons qu'il peut le faire, c'est en suscitant des questions. Comme, mais trouves-tu que ça a de l'allure? Hein? Mais pourquoi ça? Pourquoi que... Je comprends pas pourquoi le pasteur ne fait pas ceci ou cela pour toi ou pour moi. On arrive avec des questions comme ça, et là, vous n'avez même pas pensé, mais comme, c'est vrai. Et là, vous allez vers le bas. L'objectif. Des fois, on dit, mais je ne comprends pas pourquoi le pasteur n'a pas invité tel orateur. Mais pourquoi? Et je peux vous dire, la vérité, c'est peut-être que vous ne comprenez pas. C'est vrai, ça, peut-être que vous ne comprenez pas. Mais ça ne veut pas dire que ce n'était pas une bonne décision. Amen, comme j'expliquais avant. Plus de confiance dans votre berger, plus le désir d'être protégé par votre berger. Des fois, c'est comme, je ne comprends pas pourquoi ça n'arrive pas plus vite. Mais des fois, c'est juste l'impatience. Des fois, c'est juste l'impatience de votre part. Des fois aussi, on emprunte l'offense de quelqu'un qui a été blessé, mais vous ne connaissez pas du tout la situation. La personne a été blessée, mais peut-être que la personne était non repentante. Peut-être qu'il y avait plein d'affaires dans sa vie que vous ne connaissez pas, mais que nous, on connaît. Une des choses, si vous voulez être cette épouse précieuse de Christ qui vit dans la joie, dans la protection divine, vous devez faire confiance à votre leadership spirituel. C'est aussi simple que ça. L'ennemi va vouloir vous siphonner votre confiance, vous voler votre confiance, susciter des questions pour vous troubler. Et là, vous allez à terre, vous allez être malheureux. Et ça va causer des problèmes dans l'Église. Mais je peux vous dire, dans cette Église, on n'acceptera pas ça. On se tient. Et en passant, vous savez, le Seigneur est tellement bon. Dieu veut bénir cette Église. Et Dieu continue à bâtir cette Église. Et nous allons de gloire en gloire. Et une des choses que le Seigneur fait, le Seigneur donne des rêves. Savez-vous que Dieu parle encore aujourd'hui? Le Seigneur parle encore. Des fois, j'ai été obligé de confronter des gens, les appeler. Écoute, le Seigneur me montre ça. Ben, qui t'a dit ça? J'ai eu un rêve de toi et c'est ça que tu faisais. Et la personne, tu peux te repentir, on t'aime. Tu peux te repentir. Mais là, des fois, vous savez, quand Dieu révèle les histoires, puis on entend des conversations au complet, c'est difficile après de nier. Mais n'attendez pas des choses comme ça pour vous repentir. Dites-vous aujourd'hui, je veux marcher selon la parole de Dieu. Je ne veux pas être cette église adultère qui n'est pas loyale envers la parole de Dieu, qui n'est pas loyale envers l'église de Jésus-Christ, qui n'est pas loyale envers tous les principes qu'on découvre ensemble. Soyons l'épouse plutôt engagée à servir Dieu. Vous savez, on est tous dans la même équipe, frères et sœurs. Saviez-vous ça? On est dans la même équipe, on est dans le même royaume, on est l'épouse de Jésus-Christ. On veut aller de l'avant, on veut rejoindre les âmes perdues, on veut aller dans les médias, continuer dans les médias et prêcher l'évangile de Jésus-Christ qui libère les captifs. C'est ça qu'on veut faire. On veut imprimer des livres, semer la parole de Dieu à droite et à gauche, l'émission de radio, on veut continuer là-dedans. Il y a plein d'opportunités, faire la relation d'aide, évangéliser un à un, aller dans les rues, travail de rue. Il y a plein de projets qu'on a. Il y a plein de choses excitantes qu'on peut faire. L'ennemi, par exemple, il ne veut pas qu'on soit occupé à être un instrument entre les mains de Dieu pour guérir les malades, pour changer des vies. Il veut qu'on se tourne vers nous-mêmes et qu'on se détruise. Et c'est ça qu'il a fait dans plein d'églises. Mais au nom de Jésus, ça n'arrive pas dans cette église. Dans cette église, nous marchons dans la loyauté. Dans cette église, on va marcher, on va se tenir ensemble. Et quand il y a quelqu'un qui arrive et qui commence à poser des questions, mais pourquoi ça, puis ici, vous dites, je ne sais pas, mais va en parler au pasteur. Dites-lui, va en parler au pasteur. Si t'es pas content, va en parler au pasteur, je sais pas. Moi, je suis content, puis personne va me voler ma joie. Au nom de Jésus, faut être sérieux. Voulez-vous la religion? Moi, j'en veux pas de religion. Moi, je veux marcher dans le sérieux. Parce que vous savez, cette église-là, on va continuer d'aller de l'avant. Sauf que si ce matin, je vous ai dérangé, ben que Dieu vous dérange pour le bien. Qu'il vous dérange, si vous êtes dans le péché, repentez-vous, puis dites, c'est vrai, je me suis permis de me faire avoir. C'est vrai, j'ai écouté des discours qui étaient contre la volonté de Dieu, parce que c'est écrit dans la Bible. J'ai rien inventé. Donc, si vous avez vécu dans le péché à ce niveau-là, changez de route. Repentez-vous et entrez dans la bénédiction de Dieu. Il n'y a rien qui va nous empêcher. On le dit au nom de Jésus, je vais inviter l'équipe de la louange. Moi, là, je suis vendu à la parole de Dieu. Je suis vendu à vouloir faire la volonté de Dieu dans cette église. Puis je peux vous dire, toute l'équipe pastorale, on a un cœur et c'est de rejoindre les gens. Et votre cœur avec nous est là aussi. Votre cœur, je crois, dans cette église, on a des gens bouillants pour Dieu. Vous savez, quand on dit on va faire de l'évangélisation, on a plein de gens qui sont là, qui veulent semer. Et vous savez, ça dérange l'ennemi. Ça dérange le camp de l'ennemi. Il veut vous endormir. Il veut garder les gens juste dans la religion. Mais ça ne marchera pas ici. Amen. Êtes-vous décidé avec moi? Amen. Amen. Père éternel, on vient devant toi maintenant. Seigneur, nous sommes ton épouse, l'épouse précieuse. Oh Seigneur, on sait que tu nous invites à ce festin glorieux et on veut faire partie de cette célébration céleste. On veut goûter à tes bontés, on veut goûter à toutes ces bonnes choses dans l'au-delà. Mais Seigneur, aujourd'hui, on veut aussi découvrir la splendeur de ton évangile aujourd'hui même. Seigneur, on ne veut pas passer à côté aucune chose qui ne vient pas de toi. Seigneur, on veut vraiment manger tous les fruits, Seigneur, de notre salut en toi. Seigneur, cette maison, c'est une maison que tu as appelée à marcher ensemble. On avance d'un seul pas pour rejoindre les masses, pour rejoindre ceux qui n'ont jamais entendu parler de toi. Tous ceux qui sont sous l'oppression de l'ennemi, qui sont là pris avec les maladies, qui sont pris avec l'oppression, avec des esprits de suicide. Tous ceux qui vivent toutes sortes de choses difficiles, qui sont écrasés. Seigneur, on veut être ta main, on veut aller secourir ces gens-là, au nom de Jésus. Mais Seigneur, aujourd'hui, s'il y a eu de la sorcellerie dans les discours, s'il y a eu dans cette maison des choses qui sont contraires à ta parole, la manipulation, s'il y a eu des choses comme ça, au nom de Jésus, on se repent et on fait le ménage au nom de Jésus-Christ. On fait le ménage de cette place. Et Seigneur Dieu, que le vent de ton Saint-Esprit vienne dans cette place, que le vent de ton Saint-Esprit vienne et que la conviction du Saint-Esprit vienne dans cette maison et qu'on puisse avoir une décision ferme en nous, qu'on va avancer avec toi. Il n'y a aucun démon de l'enfer qui nous empêche. Il n'y a aucun démon de l'enfer qui va nous empêcher d'entrer pleinement dans notre destinée en toi, au nom de Jésus. Alléluia, gloire à toi, Seigneur Dieu. Hey, je peux vous dire, juste comme on chantait ça, je sens un vent nouveau dans cette église. Amen. Juste comme on chantait ça, puis on a pris une décision ensemble, je sens un vent nouveau dans cette église. Une pureté dans cette église. Gloire à Dieu. Je sais que Dieu a fait des choses dans vos cœurs. Il a illuminé vos yeux sur des choses. Peut-être que vous allez faire des changements dans vos... Pas peut-être, je sais, s'il y a des choses à changer, vous le faites. Mais je sais, on s'en va à un autre niveau. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu, pour ta présence dans cette place. Merci, Seigneur Dieu, parce qu'on a pris la décision, encore on se renouvelle aujourd'hui dans notre engagement les uns envers les autres. Merci Seigneur Dieu pour cette église qui marche dans l'unité, dans l'harmonie, dans l'amour. Toutes ces choses-là, Seigneur Dieu, qui viennent de ton royaume. Oh Seigneur, je te remercie. Je te remercie parce qu'il y a un gros pas géant qui avance ce matin. On fait tous partie de ce grand pas qui avance. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour les gens qu'on touche, même cette semaine. Des gens, Seigneur, qui sont là, qui ont besoin de nous. Oh, cette semaine, notre bouche va être remplie de paroles de vie. Des paroles de vie et non de mort. Merci, Seigneur Dieu, pour la vie, le jardin d'Éden dans cette église. Ta vie qui est ici, au nom de Jésus. Et je décrète sur chaque tête, sur ton épouse, Seigneur, je la bénis aujourd'hui avec le shalom de Dieu. Rien de manquant, rien de brisé. Amen. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche. Bon groupe vie. Amen.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.